Radio Okapi. Grande interview.
Bonjour, je suis Alain Irung Mouchinge. Dans Grande Interview aujourd'hui, je reçois Timothée Mouteba, premier vice-président du Conseil économique et social. Avec lui, nous parlons du rôle et de la mission de cette institution. Mesdames et messieurs, merci de nous recevoir chez vous. Timothée Mouteba, bonjour.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Je me porte bien, par la grâce de Dieu.
Aujourd'hui, ensemble avec vous, nous allons faire un exercice assez pédagogique pour nous expliquer les missions du Conseil économique et social, pour voir les différentes matières traitées et nous allons faire une projection sur l'avenir. Pour commencer, c'est quoi le Conseil économique et social?
Le Conseil économique et social, c'est une institution républicaine. Selon la pensée du constituant, le Conseil a pour mission de faire des avis sur l'économie et le social. Et les avis qui émanent du Conseil économique et social, c'est des avis tout à fait consultatifs, adressés au président de la République, aux deux chambres parlementaires et au gouvernement. Tout ça pour rappeler l'attention de tous ces dirigeants et même ceux de province sur les réformes nécessaires en vue de rencontrer les préoccupations sociales et économiques de la population.
Le fait que le Conseil économique et social ne soit qu'un organe consultatif, qu'est-ce que vous répondez à tous ceux qui pensent que ça fait sa faiblesse au lieu d'être sa force?
Mais vous savez, quand vous n'avez pas la force de juger les gens, de les interpeller, vous êtes social. Celui qui a la force, même si ça lui est donné par la Constitution, d'arrêter et de sanctionner, à un moment donné, il se fait des ennemis. On va l'appeler, pendant qu'il exerce sa mission, quelqu'un peut se permettre de l'appeler Bololé. Vous voyez? Donc, pour nous permettre de cautionner, de faire l'entente et l'harmonie dans la nation, il est bon pour nous que nous restions consultatifs. À ce moment-là, tout le monde peut être très à l'aise avec nous et nous comprendre et appliquer ce que nous proposons.
Cette institution existe depuis combien de temps?
En République démocratique du Congo, le Conseil économique et social a existé dans les premiers textes constitutionnels, dans la constitution de Luluabourg. Les constituants avaient déjà prévu l'institution des conseils économiques et sociaux, c'est-à-dire au niveau central et au niveau des provinces. Alors, l'anarchie qui a caractérisé la Première République n'a pas permis. Pendant la Deuxième République, il y a eu quelques tentatives de Mobutu, mais l'institution ne durait que la durée d'une fleur à cause des interprétations diverses et diversifiées de certains acteurs politiques. Mais en 2013, le chef de l'État de l'époque a demandé au Parlement de faire la loi conformément à la Constitution, la loi du 30 octobre 2013, qui fait alors que le Conseil économique puisse démarrer en 2014.
Vous avez parlé des institutions qui peuvent déjà saisir le Conseil économique, vous avez parlé du gouvernement, du président de la République,
des deux chambres parlementaires, du gouvernement, et même la population, par le moyen d'une pétition, peut saisir le Conseil économique et social.
Avez-vous déjà reçu une pétition pour un dossier quelconque, un sujet quelconque?
Oui, nous avons reçu la pétition de la province de la Mongala sur les infrastructures qui se meurent, notamment par les phénomènes érosion. Le Conseil économique se prépare à pouvoir répondre à cette pétition.
Les conseils du Conseil économique sont à prendre ou à laisser pour les institutions qui les demandent, mais comment sont désignés les conseillers?
Les conseillers de la République viennent des corporations. Nous avons le monde du travail, le monde d'employeurs, le monde des affaires, les confessions religieuses, le monde scientifique, les associations féminines. Et nous avons les 26 provinces. Ce sont ces corporations qui désignent les membres qui les représentent. Et là-dedans, nous avons des personnalités indépendantes désignées une toute personne par le président de la République. Ils ne sont que trois. Et c'est ça qui fait l'ensemble de 68 conseillers de la République qui composent le Conseil économique et social.
Mais qu'est-ce qui garantit l'indépendance de tous ces membres qui peuvent donner librement leurs avis, qu'ils peuvent même parfois être en contradiction avec les institutions qui ont demandé leur avis?
La loi prévoit des immunités quant à nos prises de position pendant que nous discutons sur des questions intéressant les aspects économiques et sociaux de la République. La loi nous reconnaît des immunités.
Avez-vous déjà constaté, par exemple, que des débats politiques ou politiciens s'invitent au cours d'une session du Conseil économique et social?
Non, tu sais, les personnalités de la République qui composent le Conseil peuvent avoir leur goût politique, mais ici, ce qui nous réunit, c'est le social et la marche de l'économie de notre pays. Surtout par le temps que nous traversons, vous voyez vous-même comment ces deux aspects importants de la marche d'une nation connaissent des problèmes énormes. Alors nous appelons chacun à prendre son mal en patience, à nous concentrer sur ce qui nous est reconnu par la loi. Si on a allé s'exprimer dans d'autres officines, il n'y a pas de problème, nous sommes en démocratie. Mais ici, très régulièrement, et c'est pour cela qu'il y a un bureau, c'est pour cela qu'il y a un président, qu'il y a la police des débats, donc pour recadrer les discussions ou les dérapages. Mais d'une manière générale, depuis que nous sommes là, je n'ai pas encore vu des déchirements pendant nos débats à cause de goûts politiques.
Y a-t-il des avis du Conseil économique que, par exemple, le président de la République a pris en compte par le passé que vous pouvez nous donner comme exemple, si ce n'est pas un secret, évidemment?
Je commence par répondre à une autre question avant d'arriver à celle-là. Depuis que nous existons, de ces institutions que je vous ai citées, qui, par la Constitution, doivent nous saisir, de ces institutions, il n'y a que l'institution président de la République qui jusque-là se distingue. Oui, le président de la République, personne morale. Ils se sont suffisamment intéressés au Conseil, l'ancien comme l'actuel, pour nous saisir. Et nous avons répondu avec promptitude à leurs demandes. Alors, maintenant, ce qu'ils veulent et que nous avons donné, oui, je parlerai par exemple de l'émergence de la classe moyenne en République démocratique du Congo. Ça, c'était un souci du président Tshisekedi dès son investiture. Il a prononcé son discours d'investiture, ça faisait sa préoccupation. Le Conseil a dit, c'est pour cela que nous existons. Nous nous sommes penchés sur cette question. À l'époque, j'étais pas encore au bureau, j'étais président de la commission permanente agriculture et développement rural. Le bureau m'a envoyé cette étude dans ma commission. J'ai présidé donc cette étude sur l'émergence de la classe moyenne que nous avons envoyée au chef de l'État. Et nous voyons dans les actes et actions qu'il prend qu'il avait bien considéré nos avis.
Vous-même, pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous avez une très grande expérience dans le domaine politique, dans le domaine de la gestion des affaires de l'État. Et il en est d'ailleurs de même pour plusieurs conseillers de la République. Mais qu'est-ce que vous répondez à certains Congolais qui pensent que le modèle du Conseil économique et social que nous avons ici n'est qu'une copie, par exemple, de ce qui ne se passe qu'en France et que c'est une institution budgétivore qui ne sert à rien, qu'il faudrait carrément éliminer?
Oui, mais j'ai l'impression que pour qualifier une institution de budgétivore, il faut avoir vécu dans cette institution. Ou il faut aller commencer par faire des enquêtes, aller aux finances et au budget, voir combien de fonds sont sortis vers cette institution-là avant de tomber sur pareille déclaration. J'ai vu quelqu'un qui mériterait normalement le respect de la République parce qu'il a été au gouvernement, mais je l'ai vu tenir ce langage-là, j'ai eu fort pitié de lui parce que je me suis dit, mais c'est pas quelqu'un qui a été aux affaires, qui peut parler comme l'homme de la rue. Pour dire que telle institution est budgétivore, il faut commencer par vérifier si réellement il y a de fonds qui vont là-bas et qui sont gaspillés. Or, ce n'est pas le cas. Ici, nous pleurnichons presque. La situation commence un tout petit peu à s'améliorer, surtout pour le social de nos agents, des conseillers de la République nous-mêmes. Imagine-toi, à l'heure actuelle, nous sommes une institution où les gens sont payés deux fois par an. À la session d'avril, ils ont une indemnité de session. Ils doivent attendre la session d'octobre pour avoir encore un pécule, indemnité de session et point barre. Alors, quand Noël et Bonne Année viennent, ils sont déjà dans des trous de leur poche. Et qu'un monsieur raconte de plein gré, c'est une institution budgétivore. Non, 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 je lui donnerai un conseil à travers Radio Okapi qu'il aille revoir sa copie. C'est ridicule de tenir de tels propos pour un homme d'État. Un homme d'État doit être quelqu'un qui, avant de parler, a vérifié ce qu'il doit dire au public. Pourquoi? Parce que le public nous prend comme des modèles. Il y en a qui prennent notre parole comme parole d'évangile. Alors l'homme d'État doit faire extrêmement attention. notre peuple n'a pas circulé pour voir comment fonctionnent les conseils économiques ailleurs. Je ne vais pas parler de la France. Je voulais bien parler de la France, mais à cause de votre question, Alain, je vais parler de l'Afrique. J'ai visité à deux reprises le Conseil économique, social et environnemental de Côte d'Ivoire. Ah, il n'y a pas photo. Nos collègues sont dans des extrêmement bonnes conditions et bonnes conditions de travail. Je peux vous surprendre, un pays comme le Tchad, le pays dont on parle peu, mais là-bas, le Conseil économique, quoique étant une institution consultative, mais le chef de l'État, avant de prendre chaque type de décision ou même une ordonnance, ça doit passer par le Conseil économique et social. Nous sommes en retard parce que nous avons commencé en retard, mais ça évolue, mais il faudra aussi que la mentalité de ceux qui nous observent puisse évoluer dans le même sens que nous.
Est-ce que ce ne serait pas lié à une certaine ignorance de la population qui n'est pas suffisamment informée sur le travail du Conseil économique et social?
Je vous donne raison. Et c'est pour cela que nous avons besoin de personnes comme vous. Ce n'est pas par hasard que vous passez nous voir et que nous nous disponibilisons quand vous frappez à notre porte. C'est justement pour répondre à cet aspect des choses. Il faut que le peuple arrive à connaître son institution. Le jour où nous avons vu une pétition venir de la Mongala vers nous, nous nous sommes dit que Dieu bénisse ces gens qui sont si attentifs à l'existence et surtout à la mission du Conseil économique et social. Alors, par votre truchement, par votre aide, je pense que nous y arriverons.
Radio Okapi. Grande interview.
Pour ceux qui viennent de nous prendre en cours, je rappelle que Grande Interview reçoit Timothée Mouteba, qui est premier vice-président du Conseil économique et social. Est-ce qu'on peut connaître quelles sont les commissions qui composent le Conseil économique et social? Lorsqu'une question ou un sujet arrive sur la table du Conseil économique et social, quelle est la procédure que ça suit? Comment ça se passe?
Oui, lorsque la question arrive, le bureau du Conseil examine et voit parmi les commissions permanentes quelle est la commission qui est dans ces domaines-là, qui acte dans ces domaines-là. Mais en plus de cette commission permanente, nous avons le droit et nous le faisons, nous créons parfois des commissions ad hoc, oui, des commissions spéciales qui ne durent que la durée du travail à faire. Alors, les commissions permanentes, elles sont au nombre de 7. La commission agriculture et développement rural, la commission environnement et ressources naturelles, la commission ECOFIN, économie et finances, la commission sociale, santé et la commission éducation, formation et emploi et la commission relations extérieures et questions administratives et juridiques.
Vous avez évoqué la question des sessions. Le Conseil économique a 2 sessions. La première qui va du 1er avril au 1er juin et la deuxième
qui va du 1er octobre au 1er décembre.
Et il arrive que vous ayez des sessions extraordinaires.
Tout à fait. Il arrive que nous ayons des sessions extraordinaires qui peuvent, selon la loi, être convoquées soit par le chef de l'État. Quand il y a une question urgente, il peut nous rappeler en session extraordinaire ou qui peuvent être convoqués par nous-mêmes, le bureau, pour pouvoir désengorger un peu les sessions ordinaires. Comme maintenant, là, nous venions de faire une session extraordinaire il y a un mois. Ça nous a permis de revoir une question très importante, la question sur la gouvernance, parce que le PNUD nous en a demandé d'en faire le portage. Alors, les collègues ont dû analyser le travail fait par la commission. Maintenant, nous mettons tout au propre pour rencontrer les PNUD et plus tard organiser une grande concertation autour de hautes instances de la République sur la gouvernance.
Donc c'est une question qui est encore en cours.
Oui, qui est encore en cours parce que ça appelle l'union ou la rencontre entre plusieurs parties prenantes.
Mais nous avons vu au cours d'autres sessions défiler ici au Conseil économique et social plusieurs personnalités. C'est le cas de Monsieur Albert Youma que vous avez reçu ici. Il y a également le responsable de l'ONIP. Quand vous recevez des structures telles que celle-là, à quoi vous vous attendez?
Très souvent, nous faisons recours à des séances académiques, c'est ça le mot que nous utilisons ici. Les séances académiques nous permettent de performer l'étude que nous avons entre les mains. Youma, comme vous l'avez cité, Nous avons un avis qui sortira bientôt sur le code minier et l'avenir et le bénéfice des communautés locales. C'est dans ce cadre-là que nous l'avons invité pour qu'il vienne donner sa partition. Ces éléments-là nous permettent donc de performer, d'approfondir l'étude.
De mieux cerner la question.
De mieux cerner la question, merci bien. Nous avons fait venir Mukoko Samba. C'était dans le cadre de comment améliorer les finances de l'État et l'actionnariat congolais dans nos affaires. Le professeur Mabi Mulumba est venu aussi parler du code minier et les attentes des communautés locales et les moyens pour pouvoir bien harmoniser les deux.
Et avec l'ONIP, par exemple, on sait qu'il y a des grands enjeux autour du recensement de la population que certains dans la classe politique trouvent assez louches. Bon, on n'entre pas dans ce débat-là. Mais avec l'ONIP, par exemple, qu'est-ce que l'ONIP viendrait chercher au Conseil économique et social?
Bon, comme les autres, l'ONIP cherche notre avis, parce que dans la commission REX, Relations extérieures, administratives et juridiques, nous avons déjà ces sujets-là à l'étude. Les éléments du comptage de la population, avec les conséquences habituelles, notamment la carte d'identité pour le Congolais. Notre population peut s'évaluer à combien? C'est un travail. Nous voyons cela sous l'angle purement scientifique. C'est vrai que dans le pays, c'est beaucoup plus les aspects politiques qui comptent, mais il faut que chaque pays connaisse sa population. C'est un élément économique et social de grande importance. Comment allez-vous faire le plan de développement économique ou social du pays sans connaître le nombre de vos concitoyens?
Il y a également un travail assez intéressant qui est passé par le Conseil économique et social qu'on a appelé Balabala et à l'État. Est-ce que vous pouvez nous en parler?
C'est un avis sur la régulation de la circulation et surtout la renaissance de la contravention routière. En Europe et partout, la contravention routière fait partie des recettes de l'État, sauf chez nous. La seule chose que la circulation routière nous donne, c'est des embouteillages, des accidents et la corruption du policier commis à la...
J'allais dire corruption à ciel ouvert.
À très ciel ouvert. Dans cet avis, nous dénonçons toutes ces choses, mais nous formulons des moyens de pouvoir y remédier. Et surtout, la renaissance de la contravention routière qui pourra régler beaucoup de choses, qui pourra mettre fin au désordre qu'il y a sur nos routes, les conduites qui se font d'une manière totalement anarchique. La contravention viendra moraliser et en même temps donner du pognon au trésor public.
Vous venez d'évoquer une question très intéressante, celle de la lutte contre la corruption. On sait que le président de la République en a vraiment fait son cheval de bataille et on sait que, selon la loi, il y a des questions sur lesquelles le Conseil économique et social peut d'office s'autosaisir. Qu'est-ce que vous apportez comme contribution dans ce cadre de la lutte contre la corruption?
Dans la lutte contre la corruption, nous apportons nos propositions, notre point de vue, la meilleure façon de l'organiser. Même dans l'étude sur la gouvernance, nous revenons encore une fois sur la lutte contre la corruption. La corruption, au jour d'aujourd'hui, ne se limite pas qu'à des institutions bien précises et pas ailleurs. Elle est généralisée. Il faut aussi des méthodes de lutte totalement efficaces et bien coordonnées. Moi, j'ai dit et je le répète toujours, tant que notre législation ne prévoit pas la confiscation des biens et la restitution de tout ce qu'on a volé à l'État, la seule peine de mettre quelqu'un en prison ne suffit pas. C'est de la blague. Le type va rester là-bas, il va commencer à vous embêter, liberté provisoire, je suis malade, je vais me faire soigner. Au bout d'un temps, vous le lâchez, il va aller embrasser ces millions qu'il avait enterrés quelque part. Et nous insistons au Conseil économique, la législation doit prévoir et autoriser la confiscation des biens et la restitution au trésor public de toutes les sommes qui ont été reconnues par la justice comme ayant été indûment prises à l'État. Avec ça, pédagogiquement et efficacement, on pourra arriver à mettre fin à la corruption.
Pasi ya mokili sila kate, awana se tozali na mpasi. Na mokili ya nzambe, mola tamalamu balobi ya moibi. Kosala patron balobi ya oibaka tosala boni, etumbu ya mokili. kabela bato bakomona yo mabe opimela bato bakomona yo mabe to sala boni etumu ya mokili na mokili ya nzambe ozala na mbongo kaka motungisi ozanga mbongo nde baseki yo to sala boni se oyo ya makambo na mokili ya nzambe moto nyonso alingi nde azala bato moto na moto na chance na ye tosala boni toyaki mboka etuma
fiesta matata fiesta oye
oye salingine azala patron moto na moto na chance na ye to sala boni to ya kimboka etumba
d'interview reçoit Timothée Mouteba qui est premier vice-président du Conseil économique et social. Il y a également l'aspect environnemental qui intéresse le Conseil économique et social. Par quel bout votre institution saisit-elle cette question qui est épineuse et qui suscite beaucoup d'intérêt tant en RDC qu'à l'étranger?
La question environnementale est divisée en plusieurs sous-thèmes. Nous avons l'aspect climatique, nous avons l'aspect de la pollution généralisée causée par la mauvaise gestion des déchets publics. Alors, le Conseil économique a déjà fait des avis sur tout ça. En ce qui concerne les climats, nous en avons parlé. Les forêts doivent être protégées et les forêts doivent être récupérées par l'État et réorganisées. Et surtout, on doit revoir les méthodes d'attribution des forêts aux individus. Nous nous levons d'ailleurs pour dire on ne doit plus prendre un petit hectare de forêt de la République pour donner ça au nom de je ne sais quoi à un étranger qui se met à exploiter et les Congolais ne traversent même plus cet hectare-là. Pourquoi? Parce qu'il prétend avoir acquis ça. On doit remettre de l'ordre dans ce domaine-là. D'abord pour réorganiser la bonne lutte contre le réchauffement climatique. Nous sommes un pays assis sur le carbone, dans les tourbières, les lacs qui vous... Oui, il faut le dégazer. Nous avons pas mal de problèmes et le Conseil a déjà fourni pas mal d'explications ou de propositions à l'État dans cet aspect-là. Et il y a l'aspect eau. L'eau aussi, c'est une denrée très importante pour la vie. Et nous, nous sommes enviés par le monde entier qu'il y a beaucoup d'eau ici chez nous. Il y en a même qui viennent vous demander de leur transférer de l'eau. Le Conseil a fait un avis là-dessus pour s'opposer à tout transfert d'eau du bassin du Congo au Tchad ou ailleurs. Il faut qu'on fasse des études pour voir ce transfert-là. Ne va-t-il pas nous amener, nous, à des cas des assèchements et des déplacements de populations entières?
Il y a aussi la question de l'insécurité. qui sévit surtout dans la partie est du pays. Est-ce qu'il est déjà arrivé au Conseil économique et social de réfléchir sur des questions comme ça?
Oui, dans le cadre de ce travail sur la gouvernance, nous parlons des aspects de sécurité et paix. Mais vous savez, lorsqu'on aborde cette question de paix et de sécurité, il y a beaucoup d'éléments qui entrent. Alors, nous préférons, au moins jusqu'à présent, laisser les chambres politiques s'en occuper. Et ils sont élus par le peuple qui souffre, qui montrent à toute la nation la quintessence de leur mission. Parce que le peuple, y compris nous, nous comptons sur eux. Mais ici, chez nous, dans le cadre de la gouvernance, nous faisons quelques propositions au sommet de l'État pour que la paix revienne. Le Conseil économique a appuyé le chef de l'État dans la décision instaurant l'état de siège dans les deux provinces du pays. Et nous continuons à espérer que cela peut déboucher sur de bons résultats et que cette partie de la République puisse retrouver la paix.
Un petit pas en arrière par rapport à l'aspect environnement. Vous avez parlé de l'importance de l'eau. Tout récemment, il y avait cette question des pollutions des rivières Chicapa et Kasai. Est-ce que le Conseil économique et social était préoccupé également par cette question-là?
Très préoccupé. Malheureusement, nous étions en pleine intercession. Maintenant que nous rentrons en session, je crois que nous allons voir avec une ou deux commissions permanentes pour faire un avis, si pas tout simplement une monographie ou un protocole envoyé aux instances supérieures du pays là-dessus. Mais les populations en ont souffert, les écosystèmes ont été troublés et nous n'allons pas laisser passer ça comme ça. Je crois que la commission environnement et ressources naturelles, à notre retour, devra se pencher sur cette question.
Avant d'aborder les perspectives d'avenir du Conseil économique et social, vous avez dit tout à l'heure que la présence de la République en tant qu'institution personne morale était l'une des institutions qui vous contactait le plus.
Oui.
Comment vous évaluez les relations entre le Conseil économique et les autres associations affiliées et institutions similaires?
Sur le plan des relations extérieures, nous sommes membres de l'AICESIS, l'Association internationale des conseils économiques et sociaux et institutions similaires. Nous sommes membres effectifs et nous participons aux réunions. C'est la pandémie qui a freiné un peu les déplacements, mais nous participons en visioconférence. À ULICESA, la même chose, ça c'est au niveau de l'Afrique. Nous collaborons et nous échangeons des données et il y a même certains travaux que nous faisons ensemble au sein de AICESIS ou au sein de l'UCESA.
En termes de perspectives, on a souvent suivi, surtout lors de l'ouverture de certaines sessions, le président Jean-Pierre Kiwakana, qui est très percutant dans ses discours, qui relève les problèmes sociaux, le problème de chômage, le problème d'insécurité. Mais comment est-ce que le Conseil économique peut donner un avis efficace au moment où le social même des conseillers pose problème?
Ah non, mais tu sais, dans ces choses-là, il y a parfois l'apostolat. Hein? Donc, quand on accepte certaines fonctions, il faut y aller. Nous avons fait la première mandature, effectivement, tout simplement en apostolat. Les pays souffrent. Qu'il faut-il faire? Il ne faut pas aller faire des grèves. Nous ne travaillons pas parce que nous, on n'est pas payés. Mais la population qui attend de vous n'est pas non plus payée. À ce moment-là, il faut être nationaliste, il faut être patriote. Ça nous a vraiment caractérisés et nous avons travaillé selon cet esprit-là.
En termes des perspectives d'avenir pour clôturer notre entretien, qu'est-ce que les Congolais peuvent attendre du Conseil économique et social?
Les Congolais doivent savoir une chose. Nous faisons notre travail. Mais le travail d'une institution comme la nôtre, qui donne des avis consultatifs au pouvoir exécutif et aux provinces, notre travail, c'est un peu être leur relais, le relais de la population. Qu'ils sachent que tout ce qu'ils élèvent comme cri de détresse ou de joie, nous transformons cela à la vie et en propositions concrètes, en proposant même le voie par lequel on peut arriver à résoudre le problème de la population. Ils peuvent nous contacter par voie de pétition. Nous ferons notre travail et nous ferons des avis, des propositions. Nous parlerons aux autres institutions pour dire nous avons reçu ça de la population. Voilà, selon nous, la meilleure voie pour y aller et rencontrer la préoccupation de la population.
Et donc les Congolais doivent continuer à faire confiance au Conseil économique et social?
Absolument. Absolument.
Monsieur le Premier vice-président du Conseil économique et social, Timothée Mouteba, je vous remercie. C'est plutôt vous qui nous avez reçus dans votre bureau. Merci de nous avoir accordé de votre temps.
C'est à moi de vous remercier. C'était tellement intéressant que je ne pensais pas qu'on allait arrêter de sitôt. J'ai envie de vous revoir encore que nous continuions à parler, surtout que nous parlons des questions qui intéressent notre pays et nos compatriotes.
On est à votre disposition. Merci pour tout.
Oui, que Dieu bénisse Radio Okapi. Vous avez déjà fait beaucoup pour ce pays. Continuez.
Grande interview, c'est fini pour aujourd'hui. Je rappelle que je recevais Timothée Mouteba, premier vice-président du Conseil économique et social. Présentation et supervision Alain Hiron-Mouchinge. Vous pouvez réécouter et même télécharger cette émission ainsi que plusieurs autres numéros de grandes interviews en allant sur www.radiookapi.net. Bonne suite des programmes sur la radio de la paix. Au revoir.